Bienvenue sur la chaîne AAU, Ambiance, Architecture, Urbanité.
Donc, bonjour, donc on reprend pour la 12e session de la journée qui concerne les ambiances lumineuses, perception, conception. Donc nous serons deux co-animateurs, donc Grégoire Chelkov ici à ma droite et moi-même Ignacio Requena. Et nous allons interviewer Céline Drost. Céline Drost est architecte par l'Insanante et titulaire d'un doctorat avec une thèse intitulée « Représentation langagière et iconographique des ambiances architecturales ». Elle est membre de l'UMR depuis 2007, de l'UMR à AU, et ingénieure de recherche du ministère de la Culture depuis juillet 2018. Alors, les travaux de Céline ont abordé, et il aborde encore, la question des ambiances lumineuses, comme elle va nous expliquer, en architecture, avec une attention particulière sur des aspects des conceptions, non sans peut-être des échos à des travaux de CERMA à l'époque, et donc l'ancêtre de Crénon, l'équipe nantaise de l'AU, et d'autre part des aspects plus autour du projet quotidien comme, et la manière dont les habitants ils vont apprendre les caractéristiques sensibles des flux lumineux. Donc Céline, on peut commencer pour peut-être une question plus générale pour que tu nous expliques sur quoi tu travailles, les thématiques des recherches que tu approches, comment donc voilà, cette question du sensible viendrait interroger tes travaux.
Bien. Merci déjà pour commencer, merci pour cette invitation et pour cette présentation, Ignacio. Donc effectivement, je travaille sur les ambiances lumineuses dans la conception architecturale et sur leur perception donc dans les environnements construits. Et donc pour cela, je me place notamment donc dans ce contexte de forte mobilisation autour de la qualité environnementale du bâti et des économies d'énergie, où effectivement la gestion du flux lumineux en fait va avoir un rôle à jouer dans les projets d'architecture, que ce soit à l'échelle, la petite échelle de l'extension par exemple de la maison individuelle, jusqu'à l'échelle d'un bâtiment plus important, de l'immeuble, de l'équipement public. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que je n'aborde pas uniquement la lumière avec cette approche énergétique et quantitative, mais je m'intéresse aussi aux valeurs qui sont esthétiques, affectives et culturelles de la lumière et qui participent aux qualités qui sont prêtées donc aux espaces intérieurs éclairés naturellement. Et c'est d'ailleurs pourquoi je parle d'ambiance lumineuse et non pas d'éclairement dans mon travail, puisque j'approche aussi cette dimension sensible de la lumière. Pour vous donner quelques éléments qui me semblent en tout cas intéressants pour souligner ce sujet et son intérêt, voilà, je reviens sur quelques éléments. Effectivement, on a montré déjà avec des collègues au créneau dont Ignacio fait partie que, par exemple, les tâches, la présence de tâches solaires dans un environnement intérieur va venir modifier en fait très positivement et de manière inconsciente la perception qu'on peut avoir d'un espace comme celui que je vous montre ici, qui est observé à travers une photographie, et que les espaces donc avec ces taches de lumière sont jugés, par exemple, plus agréables, plus chauds, plus gais, plus apaisants et plus accueillants que les mêmes espaces sans la présence de taches solaires. Et d'autres études dans d'autres domaines, comme par exemple dans le champ de la psychologie, ont démontré aussi que le contact avec la lumière naturelle va avoir pour effet d'améliorer la sensation de bien-être qu'on peut avoir dans un espace que la lumière artificielle ne parvient pas encore aujourd'hui, en tout cas, à reproduire. D'où mon intérêt pour les ambiances lumineuses et plus globalement pour la lumière naturelle donc dans les espaces intérieurs. Tu abordais aussi, Nacho, donc plus particulièrement la question du sensible et de la place du sensible dans mes travaux. Alors, je vais faire un petit peu comme les deux premiers intervenants, je vais botter en touche. En fait, oui, effectivement, comme je le disais, j'approche cet aspect sensible de la lumière. Mais en fait, dans mes travaux jusque-là, en tout cas, je vais davantage parler de perception parce que, en fait, j'aborde plus particulièrement, en fait, j'isole un paramètre qui fait partie pour moi du sensible, celui de la lumière naturelle et des ambiances lumineuses. Et je fais donc surtout appel au visuel, aussi aux aspects thermiques, évidemment, parce que dans le rayonnement solaire, on va avoir bien sûr une dimension thermique. Donc pour moi, c'est plutôt une approche visuelle et thermique, donc en isolant certains sens. C'est pourquoi j'utilise plutôt le terme de perception de sensible, qui me paraît peut-être un peu plus englobant dans le vécu d'une personne. Et ce qui m'intéresse aussi via l'utilisation du mot perception, c'est que ça implique pour moi, quand on a une certaine perception d'un espace, par exemple, ça implique pour moi aussi de faire appel ou en tout cas d'avoir recours à des images mentales. C'est les dimensions que j'appelais culturelles, esthétiques et affectives que j'ai citées avant et qui entrent donc en jeu dans la perception. Je voulais aussi souligner que je m'intéresse également, pas uniquement, mais en tout cas aussi principalement aux ambiances lumineuses dans les espaces intérieurs qui sont dédiés à l'habitation. Parce que en fait, par exemple, les lieux de travail et les conditions d'éclairement dans les lieux de travail ont fait l'objet déjà de nombreux travaux sur la perception de leur qualité lumineuse, mais qu'il existe assez peu de choses sur les espaces, en tout cas sur la manière dont les conditions lumineuses sont perçues dans le logement, dans l'habitat. Alors même que certaines études ont montré que l'usage justement des espaces va avoir un impact direct sur la manière dont les conditions lumineuses sont évaluées dans ces espaces. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, pour moi, le logement va avoir aussi pour ses habitants des dimensions affectives et émotionnelles qui laissent aussi envisager, ou supposer en tout cas, un intérêt particulier pour cette dimension sensible ou ces perceptions, en tout cas accrues, de la lumière dans ce type d'espace.
Oui, et donc tu parlais des questions des représentations, en fait aussi bien pour t'avoir vu à l'œuvre dans la recherche, aussi bien des représentations des habitants, mais aussi des modalités de représentation de la lumière, en fait, de la lumière en tant que phénomène physique, mais aussi par des simulations aussi ou par des images, des synthèses sur les qualités plus affectives qui pourraient proposer la lumière dans un espace architectural lorsqu'on se projette dans des transformations, par exemple, de maisons individuelles. Et du coup, je me demandais comment ces double jeux de représentation interroge des questions peut-être des méthodes ou plus de comment tu les mets à l'œuvre dans la recherche, en fait.
Oui.
C'est clair qu'en question.
Oui. oui, c'est clair. Je vais essayer je vais en parler en m'appuyant très précisément sur une recherche que nous avons menée il y a quelques années qui abordait plus particulièrement la conception des ambiances lumineuses dans les extensions de maisons individuelles. C'est assez précis, je vais vous expliquer pourquoi ce zoom particulier. Tout d'abord, déjà, pourquoi on s'est interrogé aussi déjà sur donc les différentes représentations autour de la lumière, à la fois de la part des concepteurs, mais aussi de la part des habitants. On est parti d'une ambivalence remarquée entre effectivement l'efficacité énergétique qui est de plus en plus, dont les niveaux augmentent en tout cas de plus en plus et qui est attendue, et les contraintes donc qu'elles imposent d'une part, et d'autre part plutôt ce qu'on pourrait appeler donc les cultures sensibles, qui sont donc là héritées d'un idéal lumineux et qui va donc mener à des ambiguïtés inhérentes au percement. Par exemple, c'est voir mais ne pas être vu, gérer l'intimité mais en même temps avoir de grandes ouvertures, etc. Et cette ambivalence, d'ailleurs, elle est appuyée ou portée même par la publicité dans les espaces intérieurs. Il suffit de regarder un catalogue IKEA, par exemple, ou autre, où on voit que les espaces intérieurs sont toujours très bien éclairés, sans qu'on en voit en général la source, avec une lumière qui va être vraiment très puissante, et d'ailleurs, quel que soit l'usage de l'espace qui est représenté, y compris pour des espaces qui sont, par exemple, avec un coin bureau qui comporte des écrans, où on peut se demander si d'avoir une lumière très forte est très intéressant dans ce cas-là. Donc, la recherche là, que nous avions menée sur les ambiances lumineuses dans les extensions de maisons individuelles aussi se situait dans ce cas vraiment particulier de l'extension de la maison individuelle, parce qu'on se disait aussi que la maîtrise d'ouvrage, donc les habitants, ne sont pas des professionnels et donc peuvent avoir une certaine difficulté ou en tout cas n'ont pas forcément le savoir pour pouvoir lire les documents produits par les professionnels. En plus de, comme je l'ai déjà dit, cet enjeu très fort autour de la maison individuelle sur le plan affectif. En plus, quand les travaux ont lieu, quand les habitants sont dans la maison, il peut y avoir une dimension un peu anxiogène de voir les choses se transformer sous les yeux. Et puis, évidemment, aussi avec une dimension économique, puisque pour des habitants, donc le logement reste quand même le principal budget des ménages. Et puis également, donc, du côté de la maîtrise d'œuvre, on va pouvoir observer des démarches qui peuvent être parfois un peu routinières et pas forcément adaptées à l'échelle de la maison individuelle et de son extension, où il y a évidemment donc cette question de l'échelle, des contraintes, de la relation avec cette maîtrise d'ouvrage justement non professionnelle. Et puis la fenêtre, c'est quand même un système assez complexe, hein, une fenêtre, puisque c'est une ouverture dans un mur, effectivement, mais c'est aussi une certaine technicité de la menuiserie, du vitrage, qui implique donc une ouverture, une orientation particulière, des masques qui peuvent changer, évoluer avec le temps, bien sûr, les conditions météo, des réflexions lumineuses, et puis un système aussi d'habillage de la fenêtre qui va avoir un impact directement sur les ambiances lumineuses à l'intérieur, donc les stores, les volets, etc. Et là, donc, les enjeux étaient vraiment cette articulation justement entre conception et perception autour des ambiances lumineuses, en essayant d'apporter des connaissances qui iraient dans la direction d'aider les particuliers à formuler déjà une demande en termes d'envie d'ambiance lumineuse, et pas seulement avec un programme qui serait plus utilitaire ou pragmatique, c'est nécessaire, hein, mais essayer d'aller au-delà pour être vraiment dans la question du souhait et de l'envie autour de l'ambiance. Et d'ailleurs, les différents travaux qu'on a menés ont montré que les habitants savent très bien parler de la lumière chez eux, pour peu qu'on les incite, enfin que le professionnel les incite à le faire. Donc pour nous, c'était aussi replacer la problématique donc de l'éclairement dans le débat, dans la cuisine un peu, on va dire, du projet, pour contourner donc ces difficultés éventuelles d'anticipation des effets qui résultent, enfin des effets qui sont pris au moment de la conception sur les ambiances vécues ensuite. Et donc pour revenir plus précisément à ta question, pour ça on s'est dit bah oui, mais si en fait un professionnel va par exemple aller manipuler différents types d'outils qui existent, hein, très bien pour les professionnels sur la simulation de l'éclairement, pour essayer de quantifier un petit peu des choses et donc produire des représentations qu'il va adresser à la maîtrise d'ouvrage. Quelle est la compréhension, le niveau de compréhension que les habitants peuvent avoir de ces différentes représentations qui sont produites. Donc pour ça, je vais aller à... Je vous montre très rapidement, je reviendrai après sur ces aspects-là. En fait, on a été, on a produit alors sur une maison très basique avant et après extension. Hein, on a pris le plan de base qu'on a pu trouver parce que le sujet ne portait pas sur le plan de la maison en elle-même, mais sur la lumière et les ambiances lumineuses dans cette maison. Et donc, on a soumis en fait des représentations plus ou moins techniques avec des paramètres donc autour de la lumière aussi. Plus ou moins, on va dire, facile à comprendre ou voilà, à des clients dans des magasins de bricolage, puisqu'on s'est dit que c'était une population qui était susceptible d'avoir éventuellement en cours des projets de transformation de leur habitat ou en tout cas qui pouvaient s'interroger sur ce type de projet. Et donc, nous les avons interrogés sur les représentations qui sont celles éventuellement produites par un professionnel. Ce qu'on a pu voir, en fait, c'est que, et ce qui était intéressant à souligner, c'est que les habitants s'illustrent très bien, enfin font le pont très bien entre les représentations qui sont produites et puis leur propre vécu chez eux. Avec évidemment leur vocabulaire qui n'est pas celui du professionnel, ça va de soi, mais qu'en tout cas ils trouvaient une correspondance entre les informations fournies dans les simulations, photomontages, etc. qui ont été faits, et puis leur vécu.
Ok, bah écoute, merci pour tous ces éléments là. Ouais, moi j'ai une difficulté avec l'ambiance lumineuse en fait. Ce que c'est en termes, comment on la décrit, la qualifie quoi. Puisque tu dis, je parle pas d'éclairement. Enfin, si tu évidemment tu en parles de l'éclairement et donc tu parles de l'ambiance lumineuse. Donc là on est sur quelque chose d'assez entre justement la question de la sensibilité. Et en fait, c'est pas si facile sur la lumière, puisque bon, c'est pas une chose, c'est pas un objet matériel. Enfin, il ne s'en rend compte que par les parois qu'elle rencontre. Donc, c'est assez complexe finalement d'aborder cette question de l'ambiance lumineuse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une dimension temporelle dans la lumière dont on parle pas beaucoup. Alors qu'en fait, si on parle de lumière naturelle, la temporalité est incluse. Elle est incluse du matin au soir et de la saison à l'autre. Sans parler de phénomènes météo. Donc cette temporalité-là, peut-être, est-ce qu'il y a dans les approches que tu menais sur les ambiances lumineuses, des éléments qui peuvent donner des indications sur cette... certains phénomènes qu'on pourrait dire justement qualifiant certains genres d'ambiance lumineuse. Alors, on en parle beaucoup pour des édifices particuliers, les édifices sacrés, etc. Des redondances et beaucoup d'éléments sur des questions d'habitat, même de bureaux ou d'hôtels. Enfin bon, parlons de choses plus ordinaires, c'est beaucoup plus rare. Voilà. Moi, j'avais vu un travail, je ne sais plus où, quelque part, qui essayait de montrer les dynamiques temporelles pour indiquer comment les changements sont finalement récurrents et donc donnent cette condition de possibilité d'un certain genre d'ambiance lumineuse ou de réseau optique, pour reprendre peut-être les expressions de Gibson. Enfin bon, bref, on peut trouver différentes manières de qualifier ça. Est-ce que vous, par rapport à ça, vous avez des éléments? Est-ce que c'est pas un enjeu aussi, enfin, au regard de ce qu'on appelle cette sensibilité à des phénomènes qui sont pas justement forcément remarquables, enfin pas, c'est pas qu'ils sont ils sont remarquables à un instant, mais pas comment ils sont diffus à des instants différents. C'est pas simple hein, comme question.
Effectivement. Je reviens déjà pour commencer peut-être sur le terme d'ambiance lumineuse. Effectivement, pour moi, dans l'ambiance, il y a deux grandes dimensions, s'il faut schématiser comme ça. Mais il y a effectivement l'approche, on va dire, paramètre par paramètre, plus technique ou plus, enfin, centrée, en tout cas, sur les paramètres. Et donc là, qui va faire appel à des spécialistes dans chacun des domaines donc de ces différents paramètres identifiés, la lumière, le sonore, etc., la ventilation et autres. Et puis effectivement, il y a l'ambiance là plutôt au singulier, donc l'ambiance qui est vécue, qui est perçue par les personnes dans un espace, par nous en fait, hein, les personnes qui habitent. C'est pour ça que je parle d'ambiance, parce qu'en fait, j'essaie, en tout cas, je tente, et c'est les méthodes, c'est le sens des méthodes que je mets en place, d'avancer sur ces deux grandes dimensions que je vois à travers l'ambiance, en allant voir du côté des habitants, pour ce qui est de la question du logement, et de la manière dont eux traduisent leur propre expérience dans les espaces intérieurs, et puis d'autre part, la manière dont, là, pour le coup, les architectes, ou en tout cas les professionnels, les spécialistes, vont pouvoir appréhender le phénomène lumineux, puisque là, c'est le zoom que je fais. Donc, c'est pour ça que j'utilise, comme je disais, le mot ambiance plutôt que d'éclairage ou d'éclairement, puisque pour moi, donc, c'est vraiment combiner cette démarche et ces deux approches. Ensuite, sur donc la dimension plutôt temporelle de la lumière. Alors c'est vrai que, alors c'est ça qui est intéressant dans l'éclairage naturel d'ailleurs, parce que, enfin, je l'ai pas directement précisé, mais je m'intéresse qu'à la lumière naturelle, et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est justement cette dimension, enfin c'est notamment cette dimension donc temporelle. Alors, chez les habitants, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui va être énoncé ou dit comme ça en premier lieu. Néanmoins, quand on va pouvoir... alors, ça dépend, hein, des recherches menées, mais si, par exemple, on pratique les visites commentées dans les logements, en fait, on va voir qu'en termes d'usage, ça va traduire finalement... une certaine approche de cette dimension dynamique de la lumière, puisque les espaces qui sont utilisés l'été ou l'hiver ou à la mi-saison ou le matin ou l'après-midi, etc., ne vont pas être les mêmes justement en fonction de la course solaire, des conditions météo et autres. Donc c'est vraiment dans les pratiques, les modes d'habiter, l'aménagement intérieur qu'on va pouvoir trouver des éléments nous donnant des informations sur justement la manière dont ils vont s'approprier cette dimension temporelle de la lumière.
Peut-être pour continuer sur la dimension temporelle, c'est là où, en t'écoutant, j'avais des mal à positionner plus si on parle de sensibilité ou des sensibles, mais bon, je ne suis pas du tout non plus l'expert sur les sujets, donc... Peut-être qu'à la fin de la journée, on va en tirer quelque chose de tout ça. En tout cas, peut-être que depuis que tu travailles sur ces sujets-là, donc allez, on va dire peut-être une dizaine d'années au moins. Donc, je me demandais si tu as observé des évolutions dans les sensibilités. Peut-être des acteurs que tu viens d'interroger, comme deux concepteurs ou des habitants, et des sensibilités à la lumière, à la manière d'approcher la lumière naturelle ou l'éclairement. Juste à titre d'exemple, effectivement, on a vu apparaître tous les gadgets d'éclairement avec l'émergence du LED, les approches chronobiologiques, etc. Ce qui est dans la lumière naturelle. Voilà, donc ça... Et connecté aussi à des éléments des capteurs, comme a été dit tout à l'heure, mais pas à l'échelle urbaine, à l'échelle de l'habitat. Et voilà, bon, tu as peut-être observé des évolutions de ce type-là, qui pourraient peut-être nous conduire à dire qu'il y a une sensibilité dans le sens de l'histoire courte de sensibilité, si je m'abuse un peu sur le sujet.
Oui, tout à fait. C'est comme je disais tout à l'heure, effectivement, dans ce contexte qui n'est pas nouveau, mais qui est de plus en plus accru autour de la recherche de la performance énergétique dans les constructions et notamment dans le logement. Effectivement, on va voir que c'est quelque chose, en tout cas l'énergie, la lumière rentre dedans, mais l'énergie au sens large va être une préoccupation des habitants dans leur logement, évidemment. Néanmoins, donc les différents travaux qu'on a menés et d'autres recherches menées par d'autres collègues montrent que dans le cas d'une rénovation qui peut être assez lourde parfois des logements, en fait, l'énergie est un des paramètres que l'habitant doit traiter dans le cadre des travaux, mais c'est pas une entrée principale pour faire des travaux, et c'est pas forcément non plus une problématique qui vient vraiment en surplomb des autres. En fait, évidemment, il va y avoir dans le cas par exemple des chantiers d'auto-réhabilitation en milieu rural que nous avons suivis. Effectivement, la performance de l'enveloppe, l'utilisation des matériaux, le type d'ouverture qui sont choisis, ça fait partie en fait de la somme et de l'ensemble des choix que l'habitant doit faire pour construire sa maison. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui vient sur le en premier lieu pour cet ensemble de choix à réaliser. Sur la question de l'évolution plus particulièrement, donc là je peux m'appuyer sur une étude récente que nous avons menée. En fait, sur un quartier résidentiel, enfin de maisons individuelles qui est situé à proximité de Nantes, sur la commune de Rezé. Ce qui était intéressant pour nous, justement, c'est que ce quartier, il est en mutation. Ce sont des maisons qui ont été construites à l'après-guerre, dans les années 50. Et aujourd'hui, le quartier vit donc, oui, une forte mutation, à la fois parce qu'entre les années 50 et aujourd'hui, évidemment, les enjeux autour de la maîtrise de l'énergie ne sont plus du tout les mêmes. Et puis aussi parce qu'il y a un renouvellement générationnel complet dans ce quartier qui a été construit donc un peu de manière en plus assez originale, on va dire. Il a été construit par des habitants castors, c'est-à-dire par les habitants eux-mêmes. Et donc aujourd'hui, donc les castors justement n'habitent plus dans ces maisons. Ce sont des familles maintenant avec de jeunes enfants plutôt, qui viennent habiter ce quartier très bien desservi, qui permet un accès au centre-ville nantais très, très rapide, donc avec une forte pression immobilière. Et ce qui nous intéressait, c'était de voir quelles étaient donc les mutations possibles de ce parc de maisons individuelles existant dans le contexte de la transition énergétique et jusqu'à quel point ces maisons-là pouvaient s'adapter justement aux nouveaux modes de vie et aux contraintes aussi actuelles. Et en plus, il y avait un aspect plutôt sensible, on va dire, qui nous intéressait, c'est que ces maisons sont connues aussi pour leur charme, un petit peu, on pourrait qualifier de pittoresque, cette claircité, en fait, ce quartier, est surnommé de village dans la ville, donc a aussi donc une ambiance urbaine qui est appréciée et reconnue, et parfois même un élément déclencheur de l'achat pour les habitants, les nouveaux habitants. Et donc on a mis en place ici une méthode qui nous permet d'aborder à la fois les aspects qui sont relatifs donc à la consommation énergétique des logements, mais aussi dans lesquels j'englobe la lumière et le rayonnement solaire, et donc aussi les aspects relatifs au parcours de vie des habitants, à la perception dans leur logement. Et on a pu voir donc que toutes ces maisons ont fait effectivement l'objet donc de transformations qui sont assez visibles d'après les façades des maisons, et qui traduisent donc cette évolution du besoin des familles. Par exemple, donc on voit qu'elles ont toutes eu une surface habitable qui a été augmentée, bien que le nombre d'habitants par maison a chuté par rapport aux habitants d'origine. Et puis, on voit aussi des modifications en façade, comme le changement des menuiseries, certaines sont isolées par l'extérieur, etc., qui montrent aussi donc les préoccupations énergétiques. Donc, enfin, on s'est rendu compte que ces maisons avaient finalement aujourd'hui atteint des niveaux de performance énergétique plutôt satisfaisants, puisque assez comparables à la production actuelle de logements, ce qui n'était pas forcément évident pour nous, en tout cas dès le départ, mais qu'elles ont atteint actuellement leur potentiel d'amélioration énergétique, parce que tous les travaux, enfin l'ensemble des travaux qui pouvaient être réalisés pour améliorer l'enveloppe ont été réalisés. Donc elles sont un petit peu bloquées, elles ne peuvent pas aller au-delà. Et en plus, il y a actuellement un mécanisme de patrimonialisation en fait de cette maison qui va les figer, notamment parce qu'il fige l'aspect extérieur des maisons. On peut plus trop intervenir dessus. Et ce qui permet donc de conserver cette ambiance un peu charmante dont je parlais de village dans la ville un peu champêtre, mais la conservation de cette ambiance en fait a pour effet, comme je le disais, de limiter donc la performance énergétique des habitats individuellement. Par contre, ce qui nous semble intéressant et ce vers quoi les habitants commencent eux-mêmes à penser, c'est plutôt que de raisonner à une échelle individuelle, ce serait là de raisonner à une échelle qui serait plutôt collective, à celle du quartier, où, de par l'histoire des castors et la présence nombreuse d'enfants et de petits-enfants des castors d'origine encore dans Clercité, on voit qu'il y a un fort sentiment de communauté qui pourrait donner lieu, par exemple, à l'émergence de communautés énergétiques avec une production d'énergie partagée. Donc ce serait un système en gouvernance locale qui serait un moyen de compenser l'excès de consommation individuelle des maisons en produisant sur place de l'énergie, de l'électricité, et puis aussi une nouvelle manière pour les habitants de se réapproprier une histoire commune, comme c'était le cas à l'origine avec les castors. Et donc là-dedans, la place de la lumière, vous allez me demander. Effectivement, en fait, alors la place de la lumière... Elle vient. Alors déjà au moment de la conception et des habitants d'origine, on n'a pas retrouvé donc de traces qui concernent plus particulièrement les ambiances lumineuses. Les préoccupations étaient un peu ailleurs. J'ai envie de dire, c'est la reconstruction d'après-guerre. Les problématiques qui se posaient étaient plutôt dans cette pénurie de logements, donc avec une construction de logements qui était absolument indispensable, et puis des problèmes aussi en termes d'approvisionnement des matériaux, voilà. Mais ce qu'on a pu voir de la part des nouveaux habitants, c'est que dans les motivations d'achat et les qualités qu'ils nous donnaient à partager de leur logement, la question de la clarté des espaces intérieurs et de cet aspect sur la quantité de lumière dans les espaces intérieurs revenait évidemment très souvent, en fait. C'était très souvent cité par les habitants comme faisant partie de la qualité de ce type d'habitat. Et d'ailleurs, une étude menée il y a quelques années, c'était en 2006, mais qui serait... certainement intéressante à renouveler au créneau. Elle avait été menée par Daniel Siré et Gabriel Rodriguez sur la place dans les petites annonces immobilières du fait de citer donc des qualités d'ambiance des logements, avait montré que ces maisons-là étaient vendues plus cher, en tout cas le prix de vente était plus élevé quand elles avaient des qualités d'ambiance citées par rapport aux autres, et a priori à Clercité ça pourrait se justifier. On l'a pas vérifié, mais pourquoi pas. Donc pour dire que ça fait partie en fait indirectement, c'est un indice sur aussi la qualité qui est attribuée par les habitants au logement, et ces ambiances lumineuses seraient une valeur ajoutée finalement.
Alors, pour revenir à la conception, puisque c'était un peu aussi le sujet, de la place de cette lumière naturelle avec tout ce qu'elle percute par ailleurs, hein, l'énergie, les surchauffes, etc., ou les temporalités, comment, vers quoi on pourrait orienter les choses? Parce qu'on voit en même temps des enjeux environnementaux, justement, avec alors, réduction de la diminution des ouvertures, épaississement des parois, vitrages qui sont de moins en moins transparents, en fait, puisqu'on perd en transmission lumineuse, même voire en coloration de ce que l'on voit, ou atténuation de certaines contrastes. Donc voilà, tous ces enjeux-là qui sont qui émergent à travers des normes qui sont mises en place, qui sont sans doute justifiées par rapport à l'énergie, par rapport à d'autres choses, mais par rapport auxquelles beaucoup de concepteurs s'interrogent, hein, notamment aussi par rapport à la réhabilitation, parce qu'on tu en parles un petit peu là, mais c'est aussi un champ quand même énorme. Et est-ce qu'il y a des affinements un petit peu dans les discours sur les espaces lumineux? Alors, je vais peut-être employer ce terme-là, parce que ambiance lumineuse me paraît un peu totalitaire. je veux dire par là, par la distinction dans une unité d'habitation ou de cette variation des ambiances lumineuses comme qualité propre à être habité. Alors ça, c'était un premier point. Et puis le deuxième, c'est aussi le rapport au fait que, quand on parle d'espace habité, forcément, il est sensibilisé à travers une manière de le colorer, d'y mettre des objets, donc de le rendre différent du même logement standard à côté, peut-être, je ne sais pas, et qualifiant ainsi une autre texture, on peut dire, de lumineuse ou optique. Bon. Est-ce que ça, c'est des éléments qui, dans vos approches, apparaissent un petit peu pour, justement, du côté de la conception, peut-être arriver à peut-être quelque chose d'une approche plus contextuelle, je dirais, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, prend en compte cet état nécessaire de variation dans l'appréhension de l'habiter, quoi, puisqu'on parle de l'habitat, de l'habitat ordinaire, comme une qualité nécessaire, voire indispensable, de notre milieu de vie. Voilà. Mais donc, du coup, d'avoir des outils qui sont plus attachés à démontrer aussi ces types de qualités-là. Alors, qui sont peut-être moins, disons, mesurable, je ne sais pas, peut-être, encore que, je ne sais pas, là aussi, il faut inventer des choses, mais qui renvoie justement peut-être à un domaine plus de sensibilité incarnée, enfin en tout cas vécue, plus d'appropriation qui serait créer cette qualité lumineuse particulière de son lieu d'habitat. Je ne sais pas, voilà.
Alors, je ne suis pas sûre d'avoir des éléments de réponse et d'avoir bien tout compris dans la question, mais ce à quoi ça fait appel pour moi, par exemple, pour repartir sur l'exemple de Claircité, je ne l'ai pas développé là, mais ce qui était intéressant, c'est que ces maisons, elles sont pratiquement toutes identiques. Il y a des typologies avec avec plus ou moins de chambres, etc. Mais en tout cas, elles sont proches les unes des autres. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, avec les travaux dont elles ont fait l'objet, des travaux de rénovation plutôt lourds pour une grosse majorité d'entre elles, tous les intérieurs sont différents, bien que le système d'ouverture de façade est resté le même, puisqu'on n'a pas le droit de trop modifier la façade. Donc ça veut dire que même si elles ont des orientations différentes, la manière dont l'ouverture en elle-même est plutôt similaire d'une maison à l'autre, et pourtant à l'intérieur, et donc c'est pour ça que ça me fait penser à ça, dans les matériaux, les nouveaux matériaux qui ont été mis en œuvre, les couleurs, l'aménagement intérieur, enfin, etc., la manière dont les habitants les ont aménagés, on va pouvoir identifier des différences, évidemment, d'une maison à l'autre. Mais surtout, ces différences, elles sont très... elles prennent beaucoup de place dans le discours des habitants, qui vont systématiquement se référer à leurs voisins d'en face, d'à côté, du bout de la rue, etc., où à chaque fois, il va être question de dire « tel voisin a procédé de cette manière-là, ça a eu un impact comme ça sur les ambiances lumineuses, c'est la manière dont nous, on le traduit, c'est pas la manière dont c'est énoncé les habitants, mais en tout cas, il va y avoir effectivement les conséquences observées de ces aménagements intérieurs ou de ces, la manière dont l'habitat a été transformé dans le discours des habitants. Après, du côté plutôt des concepteurs, pour parler plus précisément sur ce terrain, dans le discours des concepteurs, c'est vrai que en fait, la question de la lumière, étant donné qu'elles avaient déjà un potentiel en termes de quantité de lumière assez important, les questions portaient davantage sur le confort d'été et sur les éventuels surchauffes estivales qui étaient vécues dans les logements, et notamment dans les combles qui n'étaient pas aménagés d'origine, mais qui le sont systématiquement maintenant pour les quasiment 101 maisons de Claire Cité. Et donc, du côté des architectes que nous avons interrogés et maîtres d'œuvre, le discours portait davantage sur la manière dont, enfin, sur les matériaux qui pouvaient être utilisés pour essayer d'améliorer ce confort d'été dans les combles. Et du coup, les ouvertures aussi qui sont créées dans les combles. Bien que, encore une fois, avec ce mécanisme-là, un peu de protection, enfin de patrimonialisation en œuvre à Claire Cité, le dimensionnement des ouvertures, le type d'ouverture et même les menuiseries employées est vraiment très limité par le PLUM, en fait, par le PLU métropolitain, qui du coup imposait certains types d'ouvertures et en éliminait beaucoup d'autres. Donc là, la variation était quand même moindre. Après, pour répondre sur les rythmes donnés sur différentes ambiances lumineuses à l'intérieur des espaces, c'est vrai que c'est plus difficile à appliquer. Je trouve moins comme ça de réponse dans l'habitat individuel, parce que l'échelle fait qu'il est peut-être un peu plus difficile de parler de différentes grandes ambiances lumineuses, même s'il peut y avoir des variations d'une pièce à l'autre, évidemment. Par contre, on va le trouver là plutôt du côté de ce qu'on pourrait appeler des architectures remarquables, où les ambiances lumineuses vont être travaillées pour justement proposer des parcours dans le bâtiment, des parcours lumineux qui vont offrir des séquences un peu séquencées, différents types de séquences aux propriétés lumineuses aussi différentes en fonction du projet. Mais là, c'est moins mon domaine, donc je peux moins développer.
Non, mais je tenais juste un exemple pour illustrer, parce que après, on va donner la parole peut-être à la salle quand même, puisque ça fait un moment qu'on se parle. Hein. Donc, je pensais juste à les travaux de conception je connaissais un archi qui avait fait une habitation et qui volontairement avait stratifié un petit peu la lumière pour garder des espaces plus moins clairs et des espaces plus clairs. Bon, ce sont des choses assez simples en même temps qui répondent à des rythmes d'usage ou des types d'usage un peu différenciés, mais aussi par un imaginaire qui accompagne ce genre de dispositif, en tout cas de conception, c'est le cas de le dire ici. Bon, voilà. Je sais pas s'il y a d'autres exemples, mais aussi sur des bâtiments pas nécessairement de grande envergure, quoi, hein, ou coûteux. On passe des questions dans la salle, peut-être
Oui, moi, je me demandais, parce que tu évoques la dimension culturelle, du coup, est-ce qu'il y a des résultats, quelques pistes qui sont sorties des différentes études, là, sur cette dimension culturelle, le background, est-ce que vous avez eu affaire à différents types d'habitants, différents types de trajectoires habitantes, etc. Et puis, puisqu'il y avait différents aussi types de quartiers et de registres d'urbanité, est-ce qu'il y a un lien entre le rapport à la lumière et peut-être des registres d'urbanité propres à certains quartiers plus communautaires, plus de l'ordre de l'intimité ou plus de l'ordre de l'anonymat. Voilà.
Alors, j'ai quelques éléments de réponse à la question. Ça ne va pas y répondre totalement. Sur les aspects culturels, alors c'est vrai qu'on a... on n'a pas approfondi cette question-là. C'était plutôt le constat de départ, de se dire a priori, il existe donc des différences culturelles dans justement cette, enfin, autour des images qui peuvent être portées sur la lumière, les ambiances lumineuses, comme je disais tout à l'heure, éventuellement la gestion de l'intimité aussi, enfin du rapport à l'autre, du rapport au jardin, etc. Mais ça n'a pas été un des paramètres approfondis parce que notre échantillon, en tout cas, sur, enfin, c'était pas l'objet principal de la recherche, donc je ne peux pas aller plus loin. Après, sur cet aspect-là, mais là, je citerai plutôt évidemment notre collègue Daniel Siré au créneau qui a travaillé sur cet héritage. En fait, lié à la période hygiéniste autour du rayonnement d'une manière générale. Donc, voilà. Et puis, sur l'autre question, alors sur la dimension urbaine, là aussi, j'ai pas assez de terrain pour pouvoir comparer différentes morphologies d'habitat. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que plus particulièrement ici à Clercité, c'est vrai que ça a été en tout cas une recherche de la part des habitants de plus relier la maison à son jardin. Donc je suis pas à la grande échelle, enfin, je suis à l'échelle de la parcelle, on va dire. De relier la maison à son jardin, parce que c'était pas forcément quelque chose qui était très évident dans les maisons d'origine. Donc en mettant plutôt, par exemple, en déplaçant les espaces de vie, la salle à manger, par exemple, ou la cuisine, ou le salon, plutôt à l'arrière de la maison qui donnait sur le jardin, alors que parfois, dans l'habitat d'origine, c'était côté rue. Donc on va pouvoir l'observer à travers les travaux réalisés et l'aménagement intérieur sur la modification, en tout cas, des usages attribués aux espaces intérieurs. Et puis après, à l'échelle du quartier en elle-même, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, Clercité est surnommé le village dans la ville, puisque donc sa morphologie, en fait, alors c'est un quartier qui a été fait sur l'exemple des cités-jardins. Donc avec une grande présence de la végétation et puis aussi un système vierre en ruelles, en petites placettes, en rues assez étroites, en chemins piétonniers transversaux, etc., qui se prête, enfin qui a été décrit par les habitants comme reconstituant ce paysage champêtre assez horizontal, verdoyant et voilà. Et puis aussi, je l'ai pas dit parce que j'ai pas eu tout le temps eu le temps de tout dire, mais il y a aussi un bâtiment commun à Clercité en fait qui est autour d'une place. Je peux le remontrer. Qui est situé dans le quartier, donc qui est un bâtiment commun, qui est l'ancienne coopérative à l'intérieur de laquelle s'organisait le chantier quand l'habitat était en construction, qui est un bâtiment en devenir et qui donne sur une place au cœur du quartier. Et donc là aussi se pose actuellement par les habitants la question de la manière dont cette place va être réapproprié par les habitants. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Il y a un toboggan, un banc, quoi. En gros, c'est à peu près tout. Donc là, les habitants ont un projet commun d'en refaire une place centrale dans le quartier, tout en conservant justement cette ambiance un peu spécifique à Clercité.
Du coup, je vais bien prendre le tour. Je peux? C'est bon? Du coup, moi, j'ai une question par rapport aux autoréhabilitations dans le rural. Je voulais savoir quel type de personnes, foyers, faisaient ces autoréhabilitations et pourquoi, ou plutôt comment, est-ce qu'ils le faisaient. S'il y avait une motivation derrière, si oui, laquelle. Voilà.
Alors, justement, cette question de qui faisait ces autoréhabilitations, c'est vraiment très intéressant parce que, justement, on est parti au départ. En fait, cette recherche sur l'autoréhabilitation en milieu rural, elle est partie d'une réponse qu'on avait faite auprès du PUCA sur la précarité énergétique. Et le PUCA, dans l'appel, suggérait qu'en milieu rural, les gens qui faisaient les travaux par eux-mêmes étaient les gens qui se situaient dans une grande précarité énergétique et aussi donc, une certaine précarité financière également, évidemment. Et on s'est rendu compte que le profil des habitants n'était pas du tout celui-ci. Ce sont des habitants alors qui pouvaient avoir, sur l'échantillon qu'on avait en tout cas, qui n'avaient pas de compétences forcément spécifiques sur les travaux, la rénovation, ce genre de choses. Mais par contre, tous avaient en commun d'avoir une assez grande confiance dans leur manière de faire et dans leur manière d'apprendre de nouvelles manières de faire. En fait, et de savoir surtout où aller chercher la ressource pour apprendre à faire des choix et ensuite mettre en œuvre ces choix qui sont faits. Donc les profils étaient vraiment très très variés. Après étaient très variés. Je suis en train de me remettre dedans pour savoir quels étaient nos. C'était soit des familles, des gens à la retraite, etc. La plupart d'entre eux. Néanmoins avait quand même eu une expérience familiale liée à la rénovation, à l'auto-réhabilitation. Donc ça pouvait être aussi une manière de poursuivre en fait un genre de tradition familiale, en tout cas une manière de faire, de construire son logement. Notre point d'entrée sur ce terrain, c'était la manière dont justement les autoréhabilitateurs construisaient leur expertise, où ils allaient, comment ils s'informaient et quels arguments pesaient dans les choix qui étaient faits. Et comme je le dis, alors ça a été très, on a eu des chantiers vraiment très très différents, là où parfois c'est l'aspect économique qui prenait effectivement un peu le dessus, c'est-à-dire des personnes qui d'abord allaient acheter la porte à Bricot Dépôt et après voyaient comment ils la mettaient en œuvre et modifiaient la maçonnerie autour de la porte. Et parfois c'était plutôt, par exemple ici, pour des convictions plutôt écologiques très fortes, de mettre en œuvre, de plutôt financer des matériaux locaux, plus de qualité, etc. Et donc, du coup, de faire par soi-même, parce que ça coûtait trop cher de les mettre en œuvre par des professionnels, etc. Donc, il y avait des profils habitants vraiment aussi assez, assez variés. Par exemple, cette petite maison-là, c'était un jeune de 19 ou 20 ans qui a acheté une ruine très peu chère en milieu rural, qui n'avait jamais fait ça de sa vie, et puis qui travaille de nuit. Et donc, le jour, il refait sa maison tout seul en regardant des vidéos YouTube. Mais c'était presque ça. Voilà. Je ne sais plus si vous aviez une autre question dans la question.
Non, si. Mais du coup, une petite précision sur les personnes qui font ces réhabilitations. Est-ce que c'est des personnes qui sont originaires du lieu où elles font les réhabilitations, ou est-ce que c'est des néo-accédantes ou,
Oui. Ouais. Alors, c'est pas des personnes qui sont forcément originaires. Après, c'était pas on avait fait des profils habitants, mais plutôt sur la manière de rénover et leur parcours en fait jusqu'à la rénovation. Donc on intégrait effectivement leur histoire personnelle. C'était pas forcément ni des habitants du milieu rural, ni du lieu où ils ont acheté et construit la maison. C'était plutôt l'occasion qui faisait que de trouver un tel projet à cet endroit, à ce moment-là, à ce prix-là, faisait que ça les amenait de fil en aiguille vers un sujet d'autoréhabilitation qui n'était pas forcément un critère non plus au départ. Voilà. Et après, il y avait aussi, j'ai envie de dire, les événements de la vie qui faisaient, l'arrivée d'un enfant, d'un deuxième, etc., qui faisaient que le chantier aussi prenait certaines orientations qui n'étaient pas celles non plus qui étaient planifiées au départ, en fonction, par exemple, du nombre de chambres, etc., la surface de la maison et l'inscription du chantier dans le temps, parce que c'est des chantiers qui se situent dans le temps très long.
Je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Grégoire, à propos du fait que la lumière se révélait au contact de la paroi rencontrée. Et j'ai en tête quelques exemples de mise en évidence d'un caractère volumique de de l'ambiance lumineuse. Je pense par exemple à un son et lumière que j'ai pu voir cet été où la lumière n'avait pas de support. Enfin, le support, c'était de la particule, de la gouttelette en suspension agitée par le vent. On était sur le littoral. Je pense aussi, par exemple, à des lucarnes de toit très fines et des situations de contraste très fort. Hein. Le toit est complètement plongé dans le noir et on voit un effet de canalisation, sûrement dû à des particules en suspension. Enfin bon, bref. Et donc, voilà, c'était un élément de détail. Mais... Oui. Oui, mais il y a un caractère volumique, l'effet de pinceau.
S'il n'y a pas d'autres questions,
oui, peut-être de manière plus large, c'est pour reconvoquer d'autres travaux aussi sur l'anthropologie de la lumière. Finalement, la lumière, telle que tu l'évoques, nous parle du rapport de l'être humain à son monde, à son milieu. Et dans l'histoire de la sensibilité et son rapport à l'architecture, enfin, ou tel que l'architecture s'apprend de ces sujets-là, on a hérité d'un fort rapport médical à cette lumière-là, très marqué par la santé, et qui probablement aujourd'hui ça se trouve aussi renouvelé pour une autre forme de santé ou des rapports ou des questions plus de bien-être ou plus larges, mais aussi pour un autre rapport. Les liens, je trouve, au milieu, qui est celle qui nous aide à construire les réels écologiques. Et du coup, qui a question qui remet la lumière au prisme de l'énergie, par exemple, tel que tu l'as dit, et qui, sans forcément une traduction toujours directe dans la pensée des gens, mais par le coup, avec des conséquences très claires, on assume justement d'avoir des vitrages moins transparents parce que du coup sont performants des X ou Y et ça serait mieux pour l'environnement que seront formes d'abstraction, quoique ces transformations sont là juste en face de nous. Eh bien, bon.
Non, mais juste pour reprendre, oui, bah, parce que ça induit une forme de sensibilité. Quoi. Voilà, effectivement, tu peux accepter. L'idée que le vitrage n'est plus celui qu'on mettait au 19e, qui faisait 2 mm et qui coulait un peu, et qui déformait d'ailleurs le visible, pour aller vers des vitrages beaucoup plus techniques et qui transforment aussi ce rapport lumineux. Quoi. Voilà. Mais voilà, on n'a pas parlé d'effets lumineux, on aurait pu parler de se poser la question de savoir.
La question,
c'est pas pas une blague, alors peux-tu l'expliciter ?
Non, mais c'était pour jouer aussi à ce que tu dis, c'était pas juste. De l'équipe de mettre, parce qu'on s'évite en permanence, quoi. Je trouve ça pas bien, dommage, quoi. C'est-à-dire que moi je pense que y a un certain malaise dans ce type d'approche sur la séparation entre justement éclairement et puis ambiance, ou je sais plus comment tu as dit. Et on le voit bien dans la façon de restituer les travaux, c'est-à-dire qu'il y a des tas d'images avec des représentations techniques de luminance, d'ensoleillement, de choses comme ça qu'on voit défiler, etc. Et puis ensuite, il y a des choses qui concernent l'habité et ou qui sont de l'ordre du ressenti, des enquêtes qui sont faites auprès des habitants, etc. Mais on a de la peine à trouver le passage de l'un à l'autre, quoi. Et c'est ça que nous, du côté du Cresson, on a aussi d'essayer de développer. Et sur le lumineux, moi, je n'ai jamais travaillé, mais les notions d'effet, les choses que Grégoire commence à raconter sur les contrastes, sur voilà, des zones d'ombre, et on va de plus ombré au plus lumineux, et des modes de vie qui sont différenciés, qui ne sont peut-être pas ceux qui sont liés au type de population ou à la psychologie des gens, mais qui sont des façons de gérer ou de vivre la lumière qui peuvent être sans doute très très différenciées. Et voilà. Et alors, comment est-ce que cela peut modifier la façon d'aller chercher des éléments de mesure ou de mobiliser les éléments techniques? Ça revient peut-être aussi à la discussion de tout à l'heure. C'est-à-dire que une approche sensible des choses ne doit-elle pas justement partir de modalités de vie ou d'appropriation, en l'occurrence d'ambiance lumineuse ou d'espace lumineux, pour y répondre et augmenter les performances de façon de vivre les choses qui sont diversifiées. Là, on rentre dans une écologie lumineuse, entre guillemets, des choses, parce que sinon, j'ai toujours l'impression que voilà, on essaye d'améliorer des couches successives ou de superposer des couches toujours plus techniques. Et puis, alors, voilà, il y a le double vitrage qui, tout à coup, assombrit. Mais assombrit, bah, c'est peut-être pas grave. Ah ben oui, mais c'est peut-être pas tous les vitrages qui doivent être doublés de telle ou telle façon. Et il y a peut-être une diversité qu'il faut repenser, etc. Et du coup, je pense que ça... Voilà, enfin, que en tout cas, c'est une orientation de recherche qui pose la question d'une écologie, c'est-à-dire d'une diversification des modes ou des choses, et pas d'une hyper-normalisation dans laquelle on ne fait que qu'augmenter, auto-amplifier les processus qu'on connaît bien par ailleurs, à notre insu, par nos propres études, quoi. Voilà, c'est absolument pas une critique, une revendication, ou je sais pas quoi, quoi. Il faut surtout pas le prendre comme ça, ni dit un jury de thèse, ou Dieu sait quoi. Mais c'est une vraie question pour moi, quoi. C'est-à-dire, comment est-ce que je pense, comme on a au sein de l'équipe des gens qui sont vraiment du côté de la technique, des gens qui sont vraiment du côté des sciences sociales ou de l'esthétique, comment est-ce qu'on arrive à ce que ces choses s'embrayent différemment, quoi.
Merci à tous. Merci Salim.